homme s'appelait Charles Babbage. Retenez bien ce nom. Il s'agit en fait du père fondateur de l'informatique. Oui, c'est lui qui, dans les années 1850, a été le premier à assembler de ses mains une étrange machine qu'il a appelée lui-même la machine analytique. C'était l'ancêtre de l'ordinateur, le tout premier ordinateur du monde. Or, si Charles Babbage revenait aujourd'hui, eh bien il constaterait que la plupart de ses rêves, même les plus insensés, ont été réalisés depuis, grâce à l'électronique, une science qui n'existait pas à l'époque. Et il constaterait même que son jeu, celui qu'il écrivait ce soir-là, sur le papier, a été appliqué depuis. Eh bien, c'est avec ce secteur en plein développement aujourd'hui, en plein foisonnement, le secteur de la vie électronique, c'est-à-dire les applications de l'ordinateur dans les jeux électroniques, que nous allons découvrir ensemble tout à l'heure, mais tout de suite, nous avons rendez-vous avec les événements les plus importants de cette semaine, à commencer, Grishka, par le cinéma de science-fiction.
Oui, et nous allons commencer par évoquer une question qui sera peut-être d'actualité dans quelques dizaines d'années, autour des années 2050. Est-ce qu'un jour, nous serons capables de fabriquer un homme entièrement artificiel? Vous le savez, l'homme se compose de deux grandes parties. Il y a deux choses pour faire un homme. Il y a d'abord son apparence extérieure, son corps, et puis il y a son esprit, son intelligence. Alors du côté du corps, de l'apparence, il n'y a pas trop de problèmes à surmonter. On peut, sans prendre trop de risques, affirmer que dans quelques dizaines d'années, nous serons en mesure de fabriquer quelque chose qui, d'un point de vue extérieur, ressemblera beaucoup au corps humain. En revanche, du côté de l'intelligence, tout se complique. Car si nous sommes d'ores et déjà capables de fabriquer des intelligences artificielles, si dans quelques dizaines d'années, ces intelligences artificielles seront très performantes et simuleront à certains égards la pensée humaine, il y a tout lieu de croire malgré tout qu'elles seront très différentes, ces intelligences artificielles, de la pensée humaine, de l'intelligence humaine. Et par conséquent, la conscience artificielle sera également très différente de la conscience humaine. Alors on peut aller plus loin et affirmer que si un jour ces consciences artificielles existent, eh bien, elles entreront en conflit avec l'intelligence humaine, la conscience humaine qui les a fait naître. Pour mieux apprécier la nature de ces conflits, je vous propose maintenant de faire un saut jusqu'aux années 2050. Et là, nous allons nous embarquer à bord d'une station spatiale en orbite autour de la Terre. Alors nous voici à l'intérieur de cette station. Nous allons rencontrer un homme de science qui travaille à la mise au point d'une créature artificielle. Il s'agit d'un androïde. Il est en tout point semblable à un être humain.
Année 2050. Loin de la Terre, dans une station spatiale à l'abandon, le docteur Daniel travaille sur son expérience la plus ambitieuse. Dans un monde où l'intelligence humaine côtoie l'intelligence artificielle, le projet Cassandra va bientôt s'achever. Hommes et machines pourront alors se regarder comme dans un miroir. Android, avec Don Hopper et Klaus Kinski, est le premier film de Aaron Lippstadt et porte un regard différent sur les rapports entre l'homme et la machine. Nous savons que beaucoup de films de science-fiction ont traité du problème de la technologie opposée à l'humanité. Et nous avons voulu rendre cela plus intéressant en montrant qu'il pouvait s'agir en fait de l'humanité contre la technologie.
Now let me get this straight. You've got a, what did you call it?
An android.
Right, that's like a robot, right?
That's correct.
And you want to hook me up to this robot and stimulate me.
The presupposition of android is
la prise de position de notre film est que la technologie permettra un jour ou l'autre de créer une intelligence artificielle très semblable à l'intelligence humaine. Et en allant plus loin, les androïdes pourront alors acquérir une conscience tout aussi fragile et tout aussi imparfaite que la conscience humaine.
Concerning Max, he's starting to exhibit signs of the Munich syndrome. Insubordination, obstinacy, unpredictability. Cassandra's superior programming makes the 404 series obsolete.
I can't
Cassandra Wan is operational, I shall terminate Max.
Max est un androïde, mais il a la personnalité d'un adolescent. Et il a une affection pour le 20e siècle parce que c'est un temps pour peut-être crise d'identité de l'adolescent.
Now, Max, I have to look and see if everything is all right. Open.
Boats? I hear boats. Ow! I can't see.
Just a moment.
Ces 50 dernières années, la technologie a fait des progrès si rapides que les gens se sont adaptés à toutes ces choses nouvelles, comme l'intelligence artificielle, les androïdes et la robotique, qui représentent en fait une menace à l'identité des hommes.
Artificial intelligence, androids, advanced robotics, it's obviously it's more and more a threat to human identity. But also, if such changes, which they have,
mais je pense que si ces progrès sont régulés par le gouvernement ou par de grosses organisations, ils deviendront vite des produits de consommation courante, aussi bien que des sujets de recherche scientifique.
Either a consumer product or a product for scientific research or exploration, and it will be sold.
Et s'ils sont disponibles au public, ils seront acceptés, rendus palpables à notre civilisation, et perdront tout potentiel dangereux.
Contemporary civilization and not be made threatening.
Vous pourrez suivre la conclusion des aventures et des conflits qui opposent donc les êtres humains aux androïdes qu'ils ont créés dans le film d'Aaron Lipstadt, Android, vers la fin du mois de novembre. Quoi qu'il en soit, nous signalons également que Android fera l'ouverture du 13e festival du film fantastique et de science-fiction, traditionnellement au Grand Rex, à partir du 17 novembre prochain. Et enfin, je voudrais revenir un instant, à travers ce film, à une question qui est très importante et que nous avons posée quelquefois dans Temps X. À savoir, est-ce que donc nous serons en mesure, dans quelques dizaines d'années, de fabriquer un être en tout point conforme à l'être humain, une sorte de copie? Eh bien, pour ma part, je ne le pense pas, et ce, pour deux raisons. D'abord, parce que l'étendue du programme en termes d'informatique sur lequel fonctionne l'être humain est extraordinairement complexe et étendue, et bien plus élevée et bien plus étendue que ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui en termes d'informatique et d'intelligence artificielle. Et d'autre part, l'être humain est le résultat d'une très longue évolution biologique qui se joue sur plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions d'années, et par conséquent, l'esprit, entre guillemets, qui est celui de l'être humain, est pour cette raison même absolument incomparable à l'esprit, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. Igor, nous venons de parler d'un sujet qui est un sujet scientifique, donc la robotique, et nous allons maintenant nous tourner vers un tout autre sujet, qui est également un sujet parascientifique, mais qui n'est pas aujourd'hui facilement admis par la communauté scientifique. Il s'agit du sujet de l'ufologie, c'est-à-dire observation des objets volants non identifiés.
C'est la première fois, et la tentative mérite d'être signalée, qu'un scientifique se livre à l'exploration romanesque du phénomène OVNI. Et ici, il s'agit de Rémy Chauvin, qui, à travers un ouvrage intitulé « Voyage outre-terre », un ouvrage qui lui a été demandé par les éditions du Rocher, Rémi Chauvin explore non pas le phénomène OVNI, non pas ce que l'on voit, non pas les soucoupes volantes, mais les conséquences que ces observations peuvent entraîner sur les observateurs eux-mêmes, c'est-à-dire ce qui se produit à l'intérieur de la communauté humaine lorsqu'elle est affrontée. On ne comprend pas. Quoi qu'il en soit, ce roman est absolument passionnant. Il nous apprend des tas de choses sur la communauté de ceux qui s'intéressent à l'ufologie, c'est-à-dire les ufologues, et il nous prouve que la science et l'imaginaire vont de pair, vont bien ensemble.
Et l'ufologie, on le sait, c'est l'observation des objets volants non identifiés, c'est bien sûr le ciel, c'est l'espace, c'est la galaxie et peut-être d'autres galaxies. Alors nous insistons toujours dans notre émission Temps X sur le fait que vous devez tous essayer de mieux comprendre, de mieux connaître votre univers. Et pour cela, nous vous essayons à chaque fois de vous donner des clés. Et parmi ces clés, Igor, parmi ces guides, il y en a un qui vient de paraître, qui est probablement le plus complet et aussi le plus beau sur ce thème.
Il s'agit d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Mazarine sous le titre « Galaxie ». C'est un titre évocateur. « Galaxie », c'est un formidable voyage qui nous entraîne d'abord dans la banlieue immédiate de la Terre, c'est-à-dire dans le système solaire. Et puis, de proche en proche, nous quittons notre système solaire pour aller vers des étoiles lointaines, de plus en plus loin de la Terre. Voici des étoiles qui se situent dans le groupe local, à une quinzaine d'années-lumière de la Terre. Mais nous allons encore plus loin, nous constatons de proche en proche que l'univers est absolument immense, qu'il recèle des merveilles. Voici ici des étoiles en formation. Voici un peu plus loin, elles sont encore enveloppées, ces étoiles toutes jeunes, elles sont encore enveloppées dans leur nébuleuse de gaz qui leur a permis de se former et puis peut-être plus tard, dans quelques centaines de millions d'années, de former des planètes autour d'elles. Voici l'amas globulaire qui est une merveille car il contient plusieurs centaines de millions d'étoiles à lui tout seul. Et puis nous quittons notre galaxie pour aller vers la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède, c'est un spectacle absolument éblouissant. Elle contient 300 milliards d'étoiles, elle est située à 2 200 000 années-lumière de chez nous. C'est une galaxie qui est exactement semblable à la nôtre et son observation nous permet en quelque sorte de comprendre comment est faite notre propre galaxie, la Voie lactée.
Oui, c'est extraordinaire, c'est que cette galaxie sœur est un petit peu comme une sœur jumelle de la nôtre. Elle se ressemble en tout point, même taille, même configuration, même structure, même nombre d'étoiles à l'intérieur.
Exactement, et un peu plus loin, voici encore une autre galaxie qui, elle, se situe à quelques 20 millions d'années-lumière de la Terre. En fait, galaxie, je le disais, c'est un formidable voyage que nous proposent les éditions Mazarine.
Voilà un très beau parcours que nous recommandons donc à tous nos amis de Temps X. Igor, nous allons dans quelques instants parler des jeux vidéo dans notre dossier, tu l'as annoncé tout à l'heure. Mais les jeux vidéo ont des cousins, il s'agit des jeux à cristaux liquides. Et Igor, tu vas maintenant nous présenter le tout dernier né de la grande génération des jeux à cristaux liquides.
Et oui, un jeu qui est d'abord remarquable par sa taille, il tient dans ma poche. Et puis, surtout, c'est un jeu qui, grâce aux cristaux liquides, permet d'obtenir des qualités d'image absolument extraordinaires. Je vais le mettre en route. Et vous allez constater que le petit personnage qui se trouve ici, à gauche, est parfaitement identifiable, il s'agit de Popeye. Popeye a donc pour mission, si je puis dire, de lutter contre ce personnage qui est à gauche, qui essaie de le renverser jusque dans la mer. Popeye aura pour mission de sauver la jeune fille qui est prisonnière en haut. Ce qui est remarquable en fait dans ce jeu, c'est qu'il est pratiquement comparable à un dessin animé. La définition de l'image est parfaite et ceci, encore une fois, grâce au cristaux liquides.
Alors il faut bien sûr signaler que ce jeu n'existe pas encore, vous ne pouvez pas vous le procurer en France, c'est un jeu expérimental, mais si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements à son propos, eh bien il vous suffit, comme vous le savez traditionnellement, de nous écrire. D'ailleurs, d'une manière plus générale, je voudrais vous dire que si vous souhaitez avoir des informations sur tout ce qui concerne les jeux vidéo, les jeux électroniques, la micro-informatique et autres, eh bien il suffira de vous reporter au futur Club Temps X. Je vous le rappelle une nouvelle fois, ce Club Temps X sera fondé d'ici la fin de l'année. Nous vous communiquerons donc en temps utile l'adresse de ce Club Temps X, également l'adresse en province de toutes les bases Temps X qui seront les ambassades de ce Club Temps X dans toutes les grandes villes auprès de chez vous pour que vous puissiez vous aussi vous rendre directement dans votre Club Temps X. Alors nous venons de vous parler des jeux vidéo qui sont eux-mêmes soutenus par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Or l'intelligence artificielle a permis à une autre science de se développer, il s'agit de la robotique. Et à propos des robots, nous avons parlé tout à l'heure, nous voulons nous poser une question. Qu'est-ce qu'un robot? Eh bien, un robot, c'est un système qui est doté de trois grands caractères. Premier caractère,
Il est doté d'organes de perception, disons des capteurs qui lui permettent de percevoir son environnement, d'écouter, d'entendre et peut-être même dans certaines circonstances, de toucher. Deuxième caractère du robot, il est muni d'une intelligence artificielle, une intelligence qui lui permet de comprendre ce que ses capteurs lui véhiculent comme information, l'acheminent comme information. Et puis, troisième caractère, le robot est capable d'agir sur son environnement ou de réagir à cet environnement grâce à des systèmes de locomotion ou de manipulation de l'environnement. Alors, nous allons tout de suite vous présenter un robot. Alors, n'attendez pas qu'il ait une tête, deux bras et deux pieds. Non, pas du tout. Il est muni de six pattes. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle l'hexapode. L'hexapode est le tout dernier né d'une recherche en matière de robotique et d'informatique qui est extrêmement poussée. Alors regardez bien ce personnage, c'est une créature métallique, une créature au pas encore hésitant, mais derrière cette créature, vous allez le voir, se dessine autre chose. C'est bien plus qu'une simple mécanique, c'est déjà une entité, une intelligence artificielle.
Cette étrange machine, qui ressemble vaguement à un insecte, est munie de six pattes. Pour cette raison, ses créateurs l'ont nommé Hexapode. L'Hexapode est un robot. C'est même le seul de son espèce en Europe occidentale. Il faut aller jusqu'aux États-Unis, au Japon ou en Union soviétique pour trouver d'autres robots marcheurs de ce genre. C'est en fait pour expérimenter concrètement sur l'intelligence artificielle que les chercheurs du laboratoire de robotique de l'Université de Paris 7 ont réalisé cet étonnant robot marcheur doué de systèmes intelligents de perception et de décision qui lui permettent un comportement autonome. Ici, l'intelligence artificielle, c'est la capacité de choisir devant une situation inattendue et ceci sans aucune intervention humaine. Par exemple, si l'on place un obstacle devant l'hexapode, il change de direction pour l'éviter. Regardez bien. Ainsi, chaque mouvement, chaque déplacement des pattes est le résultat d'une intense réflexion. En fait, l'hexapode est doté de fonctions qui vont du mécanisme simple à une intelligence capable de prévoir les situations à venir. C'est une recherche typiquement interdisciplinaire qui fait intervenir la mécanique, la physique et bien sûr l'informatique. Les divers niveaux de ces fonctions forment l'architecture logique du robot et en quelque sorte sa psychologie. À présent, que va-t-il arriver si l'on enferme l'hexapode dans une enceinte fermée de tous côtés? Première étape, l'hexapode explore l'espace autour de lui en lançant des ultrasons qui vont se réfléchir sur les murs de sa prison. Deuxième étape, nous allons ouvrir une issue. Aussitôt, l'hexapode est alerté et il va chercher la sortie. Après avoir fait le tour complet de sa prison, l'hexapode va donc commencer par se soulever sur ses six pattes articulées. Puis, il va pivoter sur lui-même de façon à placer sa tête vers l'issue. Observez bien le déplacement de l'hexapode lorsqu'il pivote. Cette manœuvre complexe est le résultat d'une perception et d'une décision qui font de lui un nouveau type de robot. Enfin, il va tout naturellement se diriger vers l'extérieur et gagner la sortie. À la différence du robot mobile à roues, l'hexapode est doué d'un nombre élevé de degrés de liberté grâce à ses articulations. Il peut donc se déplacer sur tous les types de terrains, franchir les bosses aussi bien que les fossés. Cette anatomie articulée le rapproche bien sûr de certains types de robots manipulateurs utilisés dans l'industrie. Toutefois, l'hexapode est unique en son genre. Car de même que le cheval peut avoir plusieurs allures, comme le pas, le trot ou le galop, l'hexapode est capable d'avoir plus de 1000 allures différentes. « Mais dès aujourd'hui, les chercheurs du laboratoire de robotique et d'intelligence artificielle vont plus loin. Déjà, ils sont en train de construire le grand frère de l'Hexapod. L'Hexapod numéro 2 est la réplique exacte du premier. Comme lui, il est muni de 6 pattes et d'un système de capteurs identique. Toutefois, il est beaucoup plus gros que son aîné. La vocation de ce robot expérimental le destine à affronter des milieux inconnus, accidentés et hostiles. Par exemple, explorer le fond des océans ou surveiller les zones interdites à l'homme, dans les centrales nucléaires. Enfin, partons avec notre robot dans l'espace. Dès le début des années 2000, l'Hexapod sera associé à la conquête du système solaire. Après la Lune et Mars, ce sera le tour des satellites de Jupiter et des astéroïdes lointaines. Car les robots seront les premiers compagnons de l'homme dans l'espace, et souvent, ils seront les premiers à fouler le sol des mondes étrangers. La pierre que voici et que je tiens dans ma main n'est pas d'origine terrestre. Elle a traversé des milliards de kilomètres avant de s'échouer sur notre planète. C'est une météorite et elle appartient à la famille des chondrites carbonées. Alors, il tombe beaucoup de météorites chaque année sur notre planète. Vous les apercevez souvent sous la forme de ce qu'on appelle des étoiles filantes, d'une manière poétique. Par exemple, sur un territoire à peu près grand comme la France, il tombe en moyenne tous les 20 ans une météorite ou un météore d'environ 500 kilos, une demi-tonne. Mais alors la question que vous devez vous poser maintenant, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a des chances pour que des météores, des bolides célestes beaucoup plus grands, beaucoup plus importants, puissent s'échouer sur notre planète ? Des météores qui pèseraient des dizaines, voire des centaines de milliers de tonnes. Eh bien oui, c'est possible. Et pour vous en convaincre, je vous propose maintenant de quitter la France et d'aller vers l'Amérique, très exactement en Arizona. Nous voici au milieu du désert. Et là, soudain, devant nous, il y a un trou immense. Oui, le sol se dérobe sous les pieds et nous voyons comme une sorte de crevasse colossale qui mesure près de 2 km de diamètre et plus de 170 mètres de profondeur. Or, ce trou, qui est là depuis des dizaines de milliers d'années, il a été creusé par la chute d'un météore géant. Un bolide qui, venu du ciel, s'est écrasé à cet endroit-là il y a plus de 40 000 ans.
Nous nous trouvons actuellement au nord-ouest du désert d'Arizona, non loin du célèbre Grand Canyon. Ici même, voici environ 22 000 ans, un gigantesque bloc métallique, pesant au moment de son entrée dans l'atmosphère près d'un million de tonnes, vint percuter la surface terrestre. Juste avant l'impact, une boule de feu se présenta au nord, accompagnée d'un bruit assourdissant. Alors la météorite apparut comme une masse en fusion, une masse incandescente, réduite à 50 000 tonnes par l'échauffement dans l'atmosphère. Elle arrivait à une vitesse prodigieuse, 40 km par seconde. Alors ce fut l'explosion. Une explosion terrible qui fit trembler la terre, abattit les arbres, détruisit toute forme de vie alentour, détourna les cours d'eau et les fleuves de leur cours naturel, bouscula les structures géologiques du désert et souleva des nuages de poussière, de roches pulvérisées qui pendant plusieurs jours voilèrent la lumière du soleil. Lorsque le cratère fut découvert en 1891, on crut d'abord qu'il s'agissait d'un ancien volcan. En effet, la science officielle à l'époque n'acceptait pas l'hypothèse que notre planète ait pu être la cible de projectiles extraterrestres. Mais tout autour du cratère se trouvaient des dizaines de blocs métalliques de plus de 50 kg chacun. Et ils étaient incontestablement d'origine météoritique. Il fallut donc se rendre à l'évidence. On espéra alors découvrir, ici, au creux du cratère, les restes de la météorite. Et l'on entreprit des recherches. Allait-on, pour la première fois, et bien avant que les missions Apollo et Luna ramènent sur la Terre des échantillons de matériaux lunaires, découvrir les restes d'un grand corps venu de l'espace? Les fouilles furent entreprises sur la partie plate qui constitue le fond du cratère et où nous nous rendons à présent. creusa donc ici, au centre du cratère. Hélas, on ne trouva que ceci, des matières sédimentaires, à haute teneur en fer et en nickel, mais aucun bloc. Il fallut en déduire que la météorite avait littéralement explosé juste avant de toucher le sol. Les effets thermiques du choc furent si forts qu'ils provoquèrent la fusion partielle du sous-sol et que des petites billes de matière vitrifiée se trouvèrent projetées à des kilomètres à l'extérieur du cratère. On a calculé que l'énergie dégagée par l'impact de la météorite équivalait au double de tous les explosifs utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale et que sa puissance dépassait celle de toutes les explosions nucléaires enregistrées à ce jour. Quelles sont les chances pour qu'une semblable météorite vienne tomber sur la place de la Concorde, sur Marseille, Toulouse ou dans votre jardin? L'hypothèse mérite d'être envisagée car elle suppose que dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres autour du point d'impact, toute vie se trouverait détruite. Le risque n'est pas nul et l'on sait que chaque jour, sans même que nous nous en rendions compte, 25 millions de petites, de minuscules météorites ajoutent 10 tonnes à la masse totale de notre planète. Mais pour qu'une météorite vraiment dévastatrice percute la Terre, les probabilités sont infiniment plus faibles, de l'ordre d'un impact possible tous les 25 millions d'années. Alors si ce soir, en sortant, vous entendez un grondement dans la nuit, il s'agira très certainement d'un orage. Sinon, nous nous retrouverons bientôt dans une autre dimension.
Un siècle sépare le premier jeu électronique inventé sur le papier par Charles Babbage, jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure, de celui-ci que je vous ai également montré. En fait, grâce à la miniaturisation des composants, grâce à l'électronique, nous sommes parvenus aujourd'hui à une sophistication extraordinaire dans le domaine des jeux électroniques. Un jeu électronique, c'est essentiellement un programme, un support et une unité de visualisation qui est l'écran vidéo. Depuis 1976, date à laquelle ces jeux ont réellement démarré, on est capable aujourd'hui de fabriquer dans ce domaine à peu près n'importe quoi. Des parties de tennis, des parties de football, des courses de voiture, des parcours dans des labyrinthes longs et compliqués, etc. Alors c'est ce domaine tout à fait étonnant, un domaine en pleine expansion aujourd'hui, que je vous propose maintenant de découvrir. L'univers des jeux électroniques. Un univers qui impose une nouvelle écoute, une nouvelle vision aussi de la réalité qui nous entoure.
La ville de San Francisco est récemment devenue nouvelle capitale pour les loisirs et les jeux. Mais loin du cinéma d'Hollywood ou des machines à sous de Las Vegas, elle offre une distraction ludique différente dont le succès va grandissant. La Silicon Valley abrite quelques-unes des plus importantes firmes en électronique, mais ici, ces techniques de pointe ont réussi à créer un monde nouveau, peuplé d'envahisseurs spatiaux et de gobeurs de fantômes. Les univers délirants des jeux vidéo passionnent un public de plus en plus nombreux. Abandonnant le flipper, le joueur peut, pour une pièce de monnaie, participer au déroulement de l'aventure au travers de fascinants graphismes électroniques. Il devient alors le héros qui, aux commandes de sa fusée, tentera de sauver la Terre de la destruction. Chez Atari, le chef de file des jeux d'arcade, la devise est d'aller toujours plus loin. Les derniers jeux mis au point comme celui-ci en trois dimensions font preuve d'une bien plus grande complexité technique que le jeu de tennis en noir et blanc d'il y a quelques années. Le concept d'un jeu vidéo s'établit loin du téléphone et des tracas du bureau. Lors de sessions de travail très originales, il faut s'amuser à découvrir une histoire et en concevoir les situations passionnantes et drôles à la fois. Les idées ainsi établies prennent ensuite forme à travers une minutieuse programmation.
En fait, une fois que nous avons établi les idées sur papier, nous divisons le travail en plusieurs parties, comme le son, les éléments graphiques, les mouvements du jeu, l'allure de l'image finale. Puis, nous donnons chaque portion du travail à une personne différente qui en effectuera la programmation. Et enfin, les trois ou quatre personnes mettent leur travail en commun pour obtenir une première version du jeu.
Microprocesseur et circuit imprimé formeront l'électronique de base du jeu ainsi conçu. Chaque élément sera contrôlé et rectifié. Les personnages ayant été correctement tracés, le décor où ils évoluent peut devenir singulièrement sophistiqué. Pour le jeu E.T., une carte de la région fut réalisée.
Sur la carte figurent tous les objets. Par exemple, les carrés rouges sont des maisons. Ici, ce sont des arbres. Et les autres carrés verts sont d'autres arbres.
Cette carte sera elle aussi modifiée puis programmée dans le jeu pour devenir un véritable parcours illustré où les éléments déjà créés prendront place tout naturellement. L'une après l'autre, les maisons dessinées à l'atelier graphique sont disposées dans la carte. Personnages, décors et mouvements du jeu se trouveront alors réunis sur l'écran pour une synchronisation finale. Ici, la représentation graphique définitive des personnages. Et nous retrouvons maintenant à leur place arbres et maisons. Les derniers éléments qui donneront vie au jeu seront les effets sonores et la musique. Composée sur synthétiseur, elle sera soigneusement montée pour s'articuler parfaitement avec le jeu.
Avec cet éditeur de son, nous pouvons effectuer tous les changements possibles sur la musique. Changeons le volume et voyons ce que cela donne. Pas très agréable, mais cela montre bien les possibilités de cette machine. Voyons ce que nous pouvons faire aussi avec la distorsion. On la contrôle juste ici. Modifions-la.
Pour créer ce jeu, nous avons utilisé le talent de 5-6 personnes, 3 qui y travaillaient à plein temps. Nous avons mis 6 mois pour l'établir, alors que habituellement, il faut 8 mois.
Grâce aux programmateurs, animateurs et musiciens, le jeu trouvera finalement sa place dans les arcades du monde entier pour y subir le test définitif, celui du public. La régression certaine, enregistrée ces derniers mois pour les jeux vidéo, obligea les constructeurs à apporter plus de soin dans la conception de leurs jeux. Les possibilités sont sans limite, et les rapides progrès techniques permettent une sophistication extrême des aventures proposées. Chez Atari, le tout nouveau jeu inspiré de la guerre des étoiles va plus loin que tout ce qui fut conçu auparavant. Aux commandes de votre chasseur X, vous êtes Luke Skywalker et votre mission est de détruire l'étoile noire. L'identification complète des joueurs avec la situation qui leur est proposée n'est pas sans danger. Les petits génies des jeux électroniques sont légion, et la situation conçue pour les besoins d'un film n'est pas sans illustrer le prolongement inéluctable de cette frénésie du jeu.
The room's upstairs.
Your parents aren't home?
No, they both work.
You're really into computers, huh?
Yeah. We're in. It thinks I'm Falcon.
Shall we play a game?
Oh.
I think I missed him.
Yeah, weird, isn't it?
Yeah.
Love to. How about global thermonuclear war?
Wouldn't you prefer a good game of chess?
Later. Let's play global thermonuclear war.
Fine.
All right.
Which side do you want?
I'll be the Russians.
List primary targets.
Who should we nuke first?
Let's see. How about Las Vegas?
Las Vegas. Great. What next?
Seattle.
Yeah.
I have 7. Correction, 8. That's 8 red birds, 2 degrees past apogee.
Better get the old man down here.
Over day, we have Soviet missile warning. Check for malfunction and report confident.
Objective target area is NORAD regions 25.
26.
What you got up here, Joe?
Sir, we have radar tracking. 8 inbound Soviet ICBMs. Already over the pole. Estimated impact 11 minutes. Confirmed target area, Western United States.
Why didn't we get a loss detection?
I'm not sure, sir. We're checking for DSP malfunction.
La simulation poussée à l'extrême est sans nul doute le but de tout bon jeu vidéo. Toutes les recherches tentent à accroître ce potentiel, et de nouvelles techniques comme celle du jeu Guerre des étoiles, où des images en 3 dimensions voient rapidement le jour. Mais une étape suivante est maintenant atteinte, loin de la Silicon Valley, dans les studios d'une équipe d'animateurs dissidents de la Walt Disney, les studios Don Bluth.
L'animation pour moi est une véritable forme d'art. C'est une des formes les plus élevées parce qu'elle fait appel à énormément de disciplines. Il faut connaître la musique, la danse, surtout être bon acteur et bien sûr il faut savoir dessiner. Alors tout ça rassemblé donne sur l'écran un monde fantastique, magique.
Partisans d'une animation classique, fluide et colorée, Don Bluth et son équipe ont déjà produit Banjo the Woodpile Cat, une séquence du film Xanadu, et surtout leur splendide long métrage Brisby et le secret de Nîmes. Le dessin animé est un art long, coûteux et difficile. 24 images par seconde, donc 24 dessins sont nécessaires pour animer le simple visage d'un personnage. Vient ensuite la réalisation des cellulos à partir de ces dessins. Leur coloriage se fera avec grand soin, à partir d'un très large choix de couleurs. Sur la caméra verticale, le chevalier dire que l'audacieux prendra vie. Chacune de ces péripéties nécessite la création d'un décor original, une véritable peinture. Le nouveau film d'animation de Don Bluth est maintenant monté avec rythme, voix et musique. Laissez son transfert sur un vidéodisque qui permettra une utilisation surprenante.
Nous avons créé une nouvelle forme de film d'animation. Vous ne le verrez pas au cinéma, mais dans un endroit appelé arcade de jeu, car c'est un jeu, à la fois un film et un jeu vidéo, avec une bande son, des effets visuels, tout comme dans un film, mais vous pouvez et vous devez agir sur son déroulement.
Dragon's Lair, a fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has infested it with treacherous monsters and obstacles. In the mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the dragon's lair. Lead on, adventurer. Your quest awaits.
Dans Dragon's Lair, chaque impulsion de direction ou d'action commande une scène correspondante sur le disque laser, et donc la survie ou la mort du héros. Il vous faudra alors échapper à 42 pièges pour avoir enfin la chance de délivrer la princesse Daphné. Dans le monde des jeux électroniques, fantaisie et imagination sont les maîtres mots, et des moyens techniques de plus en plus sophistiqués serviront d'une manière toujours plus spectaculaire les rêves de l'écran vidéo.
Vous venez de découvrir des exemples tout à fait extraordinaires, tout à fait étonnants, des performances technologiques aujourd'hui au service des ordinateurs et qui permettent d'obtenir, vous l'avez vu, des images d'un réalisme tout à fait saisissant. On approche à travers la simulation un art de la réalité, du réalisme de plus en plus fin. Dans ce cas, les jeux dont nous avons parlé, qui sont des jeux essentiellement américains, ne sont pas encore disponibles en France.
Non, en effet, Igor, ils ne sont pas encore disponibles puisqu'ils viennent à peine de sortir des laboratoires. Ils commencent aujourd'hui à être disponibles aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes fixés une mission dans le temps X. Faire en sorte que vous tous qui nous suivez chaque semaine, vous soyez les premiers à bénéficier de la présence sur le sol français de ces jeux vidéo. Que vous soyez le premier, non seulement dans le domaine des jeux vidéo et dans le domaine des jeux en général, mais également dans tout ce qui concerne la technologie en marche, les premiers à pouvoir vous familiariser avec ces merveilles à la fois dans le domaine des jeux, de la technique, des sciences, ces merveilles qui définiront peut-être la vie quotidienne dans l'an 2000. Alors, comment allons-nous nous y prendre? Eh bien, tout simplement, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, en créant ce fameux club Temps X dont nous vous parlons et dont nous vous reparlerons encore jusqu'à ce qu'il soit créé. Ce club sera votre club, ce sera donc à vous de nous aider dans sa formation, dans sa fondation, mais d'ores et déjà, sachez que vous pourrez vous y retrouver, vous pourrez vous y familiariser, vous y rencontrer, vous y familiariser avec l'avenir et avec les objets de la vie quotidienne en l'an 2000, je viens donc de vous le dire. Ce club disposera de bases un petit peu partout, les bases Temps X un peu partout, donc dans les grandes villes de France, et vous pourrez, à l'intérieur de ces bases, rencontrer l'avenir sous toutes ses formes.
Si d'ores et déjà vous souhaitez avoir des renseignements concernant la formation de ce club et l'inscription, votre inscription future dans ce club, eh bien, écrivez-nous à l'adresse que vous connaissez bien, temps X, TF1, 16, rue Amélie, 75 007, Paris. Voilà, eh bien, vous le savez, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre voyage dans le temps X. Et puisque tout à l'heure, en commençant cette émission, j'ai fait référence à un homme du 19e siècle, il s'agissait de Charles Babbage, je voudrais maintenant mentionner la pensée d'un autre grand homme, d'un autre grand savant, d'un autre grand scientifique du siècle dernier. Il s'agit de Camille Flammarion. Camille Flammarion pressentait tout à fait les extraordinaires bouleversements que nous allions connaître. Il savait que beaucoup de choses allaient se produire dans le domaine de l'espace, de la biologie, de l'informatique, de l'électronique. Il pressentait cette science encore à naître à l'époque. Et il a écrit ceci. L'homme du XXe siècle sera citoyen de l'univers. Il explorera les limites extrêmes de la pensée, de l'imagination et de la matière. Il posera des questions à l'infini afin d'en percer les secrets.